Les propriétés de l'entendement que j'ai principalement remarquées et que je connais sont les suivantes. Premièrement, il enveloppe en lui la certitude, c'est-à-dire il sait que les choses sont formellement comme elles sont contenues en lui objectivement. Deuxièmement, il perçoit certaines choses, autrement dit, il forme certaines idées absolument. Ainsi, il forme l'idée de quantité absolument, sans avoir égard à d'autres, mais il ne forme pas les idées de mouvement sans avoir égard à l'idée de quantité. Troisièmement, les idées qu'il forme absolument expriment une infinité. Quant aux idées déterminées, il les forme d'autres idées. Ainsi, pour l'idée de quantité, quand il l'aperçoit par sa cause, alors il détermine une quantité comme, par exemple, quand il conçoit que du mouvement d'une surface naît un corps, du mouvement d'une ligne une surface, de celui d'un point une ligne, toutes ces perceptions ne servent pas à rendre plus claire l'idée de quantité, mais seulement à déterminer une quantité. Cela se reconnaît à ce que nous concevons ces choses comme si elles naissaient du mouvement, alors que cependant nous ne percevons pas le mouvement avant d'avoir perçu la quantité, et que nous pouvons aussi prolonger à l'infini le mouvement qui engendre la ligne, ce qui nous serait impossible si nous n'avions pas l'idée de la quantité infinie. Quatrièmement, il forme des idées positives avant d'en former de négatives. Cinquièmement, il perçoit les choses non tant dans la durée que sous une certaine forme d'éternité et d'infinité numérique, ou plutôt il n'a égard pour percevoir les choses ni au monde ni à la durée. C'est quand il se représente les choses par l'imagination qu'il les perçoit sous la forme d'un nombre déterminé, d'une durée et d'une quantité déterminée. Sixièmement, les idées que nous formons claires et distinctes semblent découler de la seule nécessité de notre nature, de telle façon qu'elles paraissent dépendre absolument de notre puissance seule. C'est le contraire pour les idées confuses, car celles-là se forment souvent en dépit de nous. Septièmement, l'esprit peut déterminer de beaucoup de manières les idées des choses que l'entendement forme d'autres idées. C'est ainsi que, pour déterminer, par exemple, une surface elliptique, il se représente une pointe appliquée contre une corde et se mouvant autour de deux points fixes, ou conçoit des points infinis en nombre qui soutiennent un certain rapport constant avec une ligne droite, ou encore un cône coupé par un plan oblique dont l'angle d'inclination soit plus grand que l'angle au sommet du cône, ou procède encore d'une infinité d'autres manières. Huitièmement, les idées sont d'autant plus parfaites qu'il y a plus de perfection dans l'objet qu'elles expriment. Nous n'admirons pas autant l'artiste qui a conçu l'idée d'une pagode que celui qui a conçu l'idée d'un temple magnifique. Je ne m'arrête pas ici aux autres modes qui appartiennent encore à la pensée, comme l'amour, la joie, etc. Mais ils ne font rien à notre présent dessein et ne peuvent être conçus qu'on ait d'abord perçu l'entendement. Qu'on supprime en effet complètement la perception, ils sont tous supprimés. Les idées fausses et forgées n'ont rien de positif, comme je l'ai suffisamment montré, par quoi elles méritent la dénomination de fausses et de forgées. Mais c'est seulement un manque de connaissances qui les rend telles qu'on les considère. Donc les idées fausses et forgées ne peuvent, comme telles, rien nous apprendre de l'essence de la pensée. Cette connaissance doit être acquise des propriétés positives ci-dessus passées en revue. C'est-à-dire qu'on doit maintenant établir quelque chose de commun, d'où ces propriétés découlent nécessairement, c'est-à-dire telles que l'existence en étant posée, elles suivent nécessairement, et l'existence en étant levée, elles soient toutes levées.